Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. Cette semaine, c'est France Inter plus de Tribunal des flagrants délires, l'émission culte de Claude Villers, qui chaque jour, de septembre 1980 à juin 1983, interrogeait le prévenu invité. Plus de 350 personnalités sont passées en jugement. Le 1er octobre 1982, Jean-Yann est appelé à la barre, accusé de désinformation et de propagation de fausses nouvelles, d'excès de vitesse, d'attentat aux mœurs et de nécrophilie. Plus de justice, soirée délire sur France Inter.
Mesdames, messieurs, la cour ! L'avocat de la défense, Louis Rego ! Le procureur général de la République, Pierre Desproges ! Et le président, Claude Villers !
Qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec ou pas d'innocents. Tout le monde, il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Il y a vraiment rien de pire. Les flagrants délires.
L'audience est ouverte. Huissier appelé.
Le ministère public contre Jean-Yann.
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Nom Yann, prénom Jean, âge 49 ans. Et qualité, j'ai toutes les qualités.
Oui, mais une profession peut-être ?
J'en ai plusieurs aussi, il faut que je les donne toutes.
Ah oui, oui, bien sûr.
Alors je suis un peu producteur, un peu metteur en scène, un peu auteur, un peu compositeur, un peu acteur.
C'est tout ?
C'est à peu près tout.
Vous êtes sûr de rien avoir oublié ?
Un peu journaliste.
Oui. Vous dites ça avec réticence.
Non, je dis ça avec regret.
Ah bon. Vous auriez aimé rester journaliste ?
J'ai quitté la profession de journaliste uniquement parce que le salaire était trop bas, mais autrement...
Jean-Yann, vous êtes inculpé de désinformation et de propagation de fausses nouvelles, car vous réécrivez l'histoire de façon très personnelle, et entre autres avec votre dernier film, qui va bientôt sortir, le 6 octobre, je crois, et qui a pour titre « 2h moins le quart avant Jésus-Christ ». Vous êtes également inculpé d'excès de vitesse, parce que nous trouvons que vous réécrivez cette histoire trop vite, ce qui en latin, bien sûr, est le curriculum vite fait. Et vous êtes également inculpé d'attentat aux mœurs et de nécrophilie, puisque vous vous amusez avec une langue morte. C'est particulièrement dégueulasse.
Bon.
Vous reconnaissez les faits ?
Oui, absolument, oui.
Complètement.
Je pourrais même en reconnaître d'autres, mais enfin...
Ah, si vous voulez vous confesser à la
cour. Non, mais je veux dire, ça n'est pas...
Suite,
Est-ce que j'ai intérêt à plaider coupable ou non coupable ?
Avec l'avocat que vous avez, oui. Jean-Yann, de votre vrai nom, Jean Gouille. Et vous êtes né le 18 juillet 1933 au Lila, dans la Seine-Saint-Denis. Vous avez fait vos études au lycée Chaptal à Paris, puis au centre de formation des journalistes. Vous avez été journaliste à l'ORTF, à Europe numéro 1, à Radio-Télé Luxembourg en 1952. Chansonnier aux Trois Baudets. Vous avez été animateur à Europe numéro 1 de 1959 à 1961. Ensuite, vous êtes passé à l'ORTF de 1961 à 1964. Et à Radio-Télé Luxembourg de 1964 à 1969. Et puis là, vous êtes parti dans le domaine du cinéma. Vous avez dit au juge d'instruction qu'on vous avait volé beaucoup de choses dans la vie. Et entre autres, en 68, que vous aviez lancé tellement de devises sur les ondes qu'en fait, toutes celles que vous retrouviez sur les murs de Paris, c'était celles que vous aviez pu exprimer à la radio.
Oui, non, je n'ai pas dit qu'on m'avait volé beaucoup de choses. J'ai dit simplement que c'est vrai, pendant mai 68, j'étais un des seuls à ne pas faire la grève. J'avais d'ailleurs une bonne raison, c'était parce que si je faisais la grève, je n'étais pas payé. Donc par conséquent, j'avais trouvé plus confortable de ne pas être gréviste et de continuer à faire des émissions. Et pendant toute la durée de mai 68, on faisait une émission sur RTL où on avait un certain nombre de personnages, dont un type qui s'appelait le CRS Gourdin, et on lançait évidemment des slogans. Et bien sûr, comme on était les seuls à être diffusés, les gens reprenaient nos slogans.
Mmh. Entre autres, il y avait « Ni Dieu ni maître, même nageur ».
Oui, c'était... c'est un truc dont j'étais assez fier. Ça.
Il vaut mieux avoir l'âge de César Terre que celui de César Franck.
Oui, c'est ça. Mon cœur au Portugal, Gwendolina, des trucs comme ça.
Quelle honte.
Quelle honte.
Lui.
Et oui, bien sûr. Non, il y a des chansons qui sont délibérément débiles et les chansons qui sont débiles parce que les types n'ont pas d'inspiration. Mm-hmm. Mais je veux dire, je trouve que c'est bien les chansons...
délibérément débiles.
Délibérément débiles.
Ouais. Il y a un certain cynisme là.
Moi j'avais trouvé un truc, je trouvais par exemple dans une chanson, quand elle faisait sa lessive, elle était tellement lascive, je trouve que c'est d'une rime d'une telle richesse que ça... Il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Et dans une chanson de Pauline Renaud, j'ai été attaqué par l'ambassade du Portugal parce que j'avais écrit... Quand tu danses le fado, et alors on m'a dit ça se danse pas le fado, ça se chante, personne n'a jamais dansé un fado.
Il y a un certain cynisme, Jean-Yann, dans ce que vous dites là, même sur les chansons débiles, ou tout à l'heure, sur la grève, par exemple, de vos confrères de l'ORTF à l'époque, ou la radio RTL.
C'est pas du cynisme, nous sommes les témoins de notre époque, et évidemment, il faut bien reconnaître les choses telles qu'elles sont, mais 68 a été... une grande farce, donc on ne peut pas en parler maintenant avec émotion.
Vous trouvez que c'est un pouvoir dangereux, le syndicalisme ?
Bah oui, c'est évidemment un pouvoir dangereux, mais heureusement, il est compensé par le fait que les syndicalistes passent plus de temps à manifester qu'à agir. Donc, on était partis, Gérard Serre et moi, de l'idée que un syndicat prenait l'argent des cotisations et le plaçait à la bourse, en le faisant fructifier, il aurait plus de résultats qu'en manifestant, parce qu'avec cet argent, il pourrait prendre des participations dans les usines et finalement les posséder.
À la question du juge d'instruction, votre qualité préférée chez un homme, la loyauté, et votre qualité préférée chez une femme, sensiblement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, sensiblement la même chose ?
Non, j'ai dit c'est la loyauté également, parce que les femmes, c'est sensiblement la même chose que les hommes.
Le malheureux.
Tu savais, toi ?
Oh, le malheureux. Il sait pas.
Tu vas pas nous montrer la différence. Non, non. À la question, avez-vous un idéal de bonheur ? Vous dites la liberté totale qui permet de faire ce qu'on a envie de faire exactement au moment où l'on a envie de le faire. C'est pas le cas actuellement ?
Non, parce que la liberté, c'est... Bon, il y a une liberté générale, vivre dans un pays libre, ne pas craindre d'être emprisonné, ne pas avoir peur des gendarmes ou de la Gestapo. Et puis, il y a la liberté qui consiste à dire « Non, ce truc-là m'emmerde, je le ferai pas. » Et c'est très délicat, c'est impossible.
Vous avez accepté de faire des choses pour Julio Iglesias ? Parce qu'à la question, y a-t-il des hommes que vous admiriez particulièrement ? Vous avez répondu, il y a Julio Iglesias, évidemment. Il est grand, il est beau, il chante, il écrit, il distribue.
Il embrasse bien, plus de vous oublier.
Vous connaissez son répertoire ?
Non, j'ai dit, oui, on m'a dit, quel est l'homme que vous admirez le plus ? J'ai dit, c'est évidemment Julio Iglesias, qui traverse la vie avec une inconscience absolue, qui est beau, grand... qui a des maisons à Miami, qui écrit sa vie et qui la distribue aux gens, et qui... Moi, j'ai lu son livre, Julio Iglesias. C'est absolument admirable. Donc, il faut admirer Julio Iglesias.
Il y a un chapitre entier où il raconte comment il s'habille.
Oui.
Il met d'abord ma cravate, et puis il l'enlève, et il met ma chemise. C'est extraordinaire. Ça n'a l'air pas vrai. Ah oui.
Ben, c'est formidable.
Il paraît qu'il écrit comme il chante.
Oui, exactement.
À la question, le fait militaire que vous admirez le plus, vous avez répondu, mon départ sous les drapeaux, c'est le fait militaire le plus important que j'ai connu.
Ben oui. C'était pas le fait militaire que j'admirais le plus.
Ah, c'était la question.
Non, quel est le fait militaire le plus important? C'est pas vrai. J'ai dit, c'est mon départ au service militaire, c'est le fait militaire le plus important que j'ai connu, c'est sûr.
Mais tout à l'heure, vous avez
évoqué... Je me suis tapé 32 mois.
Et vous n'en avez pas été satisfait?
Pas vraiment.
Y aurait-il une pointe d'antimilitarisme oui. également?
Pas vraiment. Et en plus, ça a servi à rien, parce que je suis parti pendant la guerre d'Algérie, on l'a même pas gagné. Alors,
Vous vous plaignez des traitements qui vous ont été infligés?
Bon, des traitements, non, parce que j'ai pas été vraiment maltraité. C'est surtout la connerie. Vous savez, j'ai toujours été... les seules choses qui m'amusaient quand j'étais à l'armée, c'était l'arrivée du général, justement. Parce que les premières choses qu'on apprend en arrivant à l'armée, c'est les versions sur les sonneries. C'est-à-dire que toutes les sonneries militaires ont des paroles. Alors, tout le monde les connaît, donc quand le général arrive, on joue, un général c'est une légume, ça mange, ça boit, ça chie, ça fume. Il n'y a pas un seul militaire qui ne connaît pas ça, et le général le sait très bien lui aussi. Ce qui fait qu'il arrive en face de 1500 types qui sont en train de penser ça, et il ne peut pas ne pas y penser. Il ne peut pas ne pas se dire, il y a 1500 types en ce moment qui sont en train de se foutre de ma gueule. Je vais les saluer, je vais me mettre au garde à vous, bon.
À la question, y a-t-il quelque chose dont vous ayez sinon de la honte, au moins du regret, vous avez répondu du regret, oui, j'en éprouve, j'ai fait des choses pas formidables que j'aurais pas dû faire. Lesquelles?
Oui, je dis, j'ai pas honte, mais j'ai fait des trucs alimentaires qui ne sont pas très recommandables.
Par exemple?
Bon, des films, des émissions, des textes, des choses comme ça. Des textes pour la publicité, des...
Vous avez écrit pour la publicité?
Des tâches, oui, bah oui, j'ai même fait un jingle pour Coca-Cola. Mais j'avais mis sain et délicieux, et puis les types voulaient pas que je mette sain. Ils disaient qu'ils voulaient mieux mettre frais. Alors, je leur ai dit, mais frais, c'est frais quand c'est frais, mais quand c'est pas toujours frais. Hein. S'il est tiède, il est quand même sain. Ils m'ont dit, non, sain, mais évitons ça.
Mettre cul est délicieux.
Il y a quelques années de cela, vous avez eu des problèmes avec la direction de la télévision pour justement une scène militaire. Dans une émission qui s'appelait 1 plus 1 égale 3, il y avait deux militaires qui s'embrassaient à pleine bouche. Et l'émission avait eu quelques problèmes.
C'est pas pour ça qu'on nous a virés. Hein. Il faut dire que cette émission avait été faite avec Martin. C'est pour un ensemble de choses. Alors, le fait que les militaires se soient embrassés, d'ailleurs, je crois pas qu'ils s'embrassaient à pleine bouche, ils s'embrassaient goulûment, mais pas à pleine bouche.
Ah bon? Quelle différence.
Ils s'embrassaient plusieurs fois, ils n'arrêtaient pas de s'embrasser.
Sur la bouche.
Ils embrassaient une fille de l'armée, enfin, une, je sais pas comment ça s'appelle,
une PFAT.
Non, il y a eu d'abord le fait qu'on ait mis Napoléon sur un vélo, dans une course cycliste, il y en a à Waterloo, qui a fait évidemment, alors là, protester à la fois les Corses, les Bonapartistes et tout.
Et les vélos?
Et les vélos. Et puis il y a eu surtout une émission où moi je faisais Schweitzer, qui jouait Viens Poupoule à l'embarrainé. alors ça, c'est un truc qui a été plus grave parce que le docteur Schweitzer, qui était une crapule, a toujours été considéré comme un saint. Et évidemment, le village natal de Schweitzer et l'ensemble de la population bien pensante a trouvé qu'on n'avait pas le droit de faire ça.
Pourquoi vous dites que c'était une crapule?
Parce que tout le monde sait l'action qu'il a eue au Cameroun, à l'embarrainé. Tout le monde sait qu'il a laissé pourrir des médicaments et du matériel qu'on lui envoyait. Tout le monde sait que son hôpital était une vraie cochonnerie et qu'en plus, c'était...
Silence les nègres.
Monsieur le procureur, avez-vous une question à poser au prévenu?
Oui, je voulais lui demander s'il ne pense pas que le fait de ne pas aimer les faux culs, et là je pense qu'il est sincère quand il le dit, est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu vous jouer des tours? Je pense notamment à une réaction que vous avez eue, moi qui m'a personnellement enchanté, je n'étais pas seul à l'avoir, c'était quand vous avez obtenu le prix d'interprétation masculine à Cannes pour votre rôle dans Nous ne vieillirons pas ensemble, c'est ça? Mmh. Vous avez été interviewé, je ne sais plus si c'est chez Drucker, enfin c'était
déjà
un dimanche, mais non, peut-être pas. Et le présentateur en question vous a dit, Jean-Yann, c'est extraordinaire, votre rôle, notamment dans la scène où vous êtes seul devant le volant de cette voiture, où les yeux gonflés de douleur, alors que... Non, non, vous vous souvenez ce que vous avez répondu à ce moment-là?
Oui, j'ai dit que j'avais collé mon texte sous le volant et que, évidemment, pour pouvoir lire, ça me faisait les yeux. Mais... c'est la vérité, c'est-à-dire, c'est vrai, je suis mort plusieurs fois au cinéma, mais c'est pas vrai, je suis pas vraiment mort.
Ah bon?
Alors, on sait bien que les dames qui pleurent ont leur col de la glycérine dans les yeux.
Mais en faisant ça, vous ne jouez pas le jeu, parce que les gens, par exemple, on vous dit, je dis n'importe quel nom, mais Yves Montand, vous avez été génial dans là. Il dit, ah oui, c'est énormément de travail, je me suis mis dans la peau du personnage, pendant 3 semaines, j'ai pas mangé, voilà. C'est ce qu'on répond d'habitude.
Oui, oui, donc ben c'est non, ben moi, je peux vous dire, j'ai eu un peu d'interprétation. J'avais des scènes où j'étais couché sur le dos avec Marlène Jobert à côté de moi. Mon texte était punaisé sur un truc, sur un truc au plafond.
Premier après, prix d'interprétation.
J'étais dans une voiture, le texte était sous le volant. Et après, je la prenais dans mes bras, le truc était dans le mur derrière.
Premier prix d'interprétation masculine à Cannes.
J'aurais dû avoir un premier prix de lecture.
Alors nous allons procéder à l'audition du premier témoin, huissier.
Nous appelons à la barre Mimi Coutelier.
Vos noms, prénoms et qualités.
Coutelier Mimi, 26 ans, actrice.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je dois jurer devant lui?
Non, remarquez, c'est vrai que vous n'avez pas normalement à jurer, mais enfin, vous pouvez le faire si ça vous peut vous faire plaisir.
Oui.
Puisque normalement, on ne doit pas faire jurer les gens qui font partie de la famille ou qui sont au service de l'inculpé. Donc, étant donné que vous êtes dans le film de Jean-Yann, normalement, je ne devrais pas vous faire prêter serment. Donc, je vous dispense effectivement de ce serment. Donc, vous allez pouvoir dire toutes les menteries que vous voulez. Mais,
Je peux le faire, moi.
Vous faites ça tous les jours. Donc, Mimi Coutelier, vous interprétez le rôle de Cléopâtre.
De Cléopâtre, oui.
Dans le film de Jean-Yann, 2h15 avant Jésus-Christ. Que pensez-vous de Cléopâtre, Mimi Coutelier, comme personnage?
Comme personnage.
Mm-hmm. Vous avez étudié un petit peu, vous avez lu son histoire, la vraie, je parle.
Oui, oui, je l'ai lu parce que Jean m'a offert différents livres qui parlaient d'elle. Et... C'est un personnage qui... C'était quelqu'un de très intéressant, qui avait beaucoup de personnalité, qui était très intelligent et qui menait les hommes par le bout du nez, pas seulement par sa beauté, mais par des tas de choses de focuisme.
Elle avait un truc formidable, Cléopâtre, c'est qu'elle se baladait toujours avec des adolescents pour pouvoir s'essuyer les mains dans leurs cheveux.
Ça c'est la classe.
Et c'est vrai. Elle bouffait avec ses doigts et elle s'essuyait dans les cheveux des jeunes gens.
Elle était toujours pratiquement nue et c'était regardé mais pas touché quoi.
Monsieur le procureur, avez-vous une question à poser aux témoins?
Non, je voudrais noter quand même qu'ils sont hypocrites tous les deux finalement, contrairement à ce qu'ils racontent, parce que c'est très facile d'appeler César tout court un empereur romain et d'appeler Cléopâtre tout court une reine d'Égypte. Alors qu'il y a eu tous les empereurs romains sont appelés pendant des siècles César, et des Cléopâtres, il y en a eu quand même une bonne demi-douzaine, à ma connaissance.
Oui, mais même chez nous...
Alors vous ne dites pas laquelle c'est non plus. Alors, vous êtes dégonflés, voilà.
Même chez nous, à la maison, moi je suis sa Cléopâtre et il est mon César.
Ah bon, d'accord.
Ouais, parce qu'on a ramené les costumes.
Voilà. C'est ce que je voulais lui faire dire.
Qu'on met le soir pour regarder la télé, c'est très très marrant.
La cour remercie Mimi Coutelier qui peut aller s'asseoir dans la salle. Nous allons d'ailleurs entendre ce que la société a à vous reprocher, monsieur Jean-Yann, puisque maintenant va se lever devant vous le... va se lever devant vous l'esprit français. Enfin, enfin oui, enfin bon, d'accord. tout au moins son représentant, le procureur général de la République des proches françaises.
Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Président, mon chien, mon cher Massif Central, invraisemblable raclure du barreau de mes deux chaises.
Coucher, Pogu. Coucher.
Mesdames et messieurs les jurés de carnaval, public chéri, mon amour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, français, belges, président, avocat public, etc., ce n'est point le procureur général qui s'adresse à vous, par ma bouche à l'ourlet purpurin faite pour le baiser. C'est le président fondateur du Jean-Yann Fan Club, dont j'ai toujours tenu farouchement à être le seul et unique membre. Brassens affirme que dès qu'on est plus de quatre, on est une bande de cons. Personnellement, j'irai plus loin, car je ne crains pas d'affirmer que dès qu'on est plus de deux, j'ai l'air d'un con. D'où un besoin quasi irrépressible de solitude et une crainte presque hystérique de voir quiconque oser partager mes goûts ou mes idées en vertu d'un second adage du susnommé Brassens qui dit qu'il vaut mieux se tromper tout seul qu'avoir raison avec les autres. Eh oui, c'est Julio Iglesias qui est pas mort. Brassens, il est mort. J'ai découvert l'existence de ce monstre velu suintant de crapulerie rablaisienne il y a bientôt 20 ans. Ça vous rajeunit pas, les mecs. Ah, vous parlez pas de moi, c'est moi qui parle de vous. À cette époque bénie où je finissais de gâcher mes études en crapahutant frénétiquement sur de nombreux sommiers dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, un vent d'impertinence poivrée commençait à balayer des antennes, la verve chansonnière, un rien franchouillarde, dégrenier Montmartre 3. Déjà, Claude Villers perçait sous Jean Nohain. Certes, l'image est hardie. Et sûrement pas à l'avantage de Jean Nohain, dont la renommée à Clermont-Ferrand ne nous permet en rien d'affirmer qu'il a percé dans le Massif Central. La cour aura évidemment compris qu'en utilisant cet alexandrin parfait, je ne voulais que parodier bien innocemment le père Hugo, qui n'en a d'ailleurs plus rien à secouer, depuis que les asticots du Panthéon l'ont quitté pour aller finir Jean Moulin. Maman, si tu trouves que j'exagère, tu mets France Culture. Ici, on respecte rien, eux, ils respectent tout. À cette heure-ci, ils doivent nous faire les chemins de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette émission. Les chemins de la connaissance. Aujourd'hui, faut-il réévaluer la spéculation astromythologique de Freud dans son approche structuraliste de la psychosomatique fliessienne? Réponse A, ça dépend. Vous ricanez, bande d'incultes. Je parie que vous n'avez même pas conscience de l'immense apport à la psychanalyse que fut la psychosomatique fliessienne. Ni même qui était... Vous savez même pas qui était Wilhelm Fliess. Oh, minable. Comment peut-on savoir qui est Louis Rego et ne pas savoir qui fut Wilhelm machin Fliess? Enfin, vous avez de la chance, j'ai sous les yeux le texte d'une récente émission de France Culture consacrée à Wilhelm Fliess. Pour ceux qui ne me croient pas, vous regardez Télérama du 20 septembre, page 118. Je vous lis. Cet otorino-laryngologiste berlinois a été pendant 13 ans l'ami de Freud et son confident. Malheureusement, son livre, Les relations entre le nez et les organes génitaux féminins présentés selon leur signification biologique, 1897, a été présenté par certains comme une élucubration délirante. Donc Jean-Yann est coupable. Car Jean-Yann, de son vrai nom, ça ne vous regarde pas, mesdames et messieurs les jurés, Jean-Yann est le seul et unique responsable de mon échec à l'agrégation de mathématiques, à laquelle je me fusse vraisemblablement présenté, n'eût été d'une part l'influence néfaste sur mon jeune esprit ouvert aux choses de la vie de cet immonde poilu des tranchées radiophoniques, et d'autre part mon aversion maladive pour les mathématiques. La première fois que j'ai entendu Jean-Yann à la radiophonie, je suis sorti de ma torpeur et de Josiane et me suis enfermé seul avec mon poste de radio dans la somptueuse garçonnière qui jouxtait alors le luxueux triplex d'étudiants que j'avais acquis grâce à l'immense fortune accumulée par ma famille pendant la guerre. Et là, j'écoutais subjugué la rude voix faubourienne chargée d'iconoclastie salace et d'irrespect fondamental de cet être affreux, anarcho-nihiliste, qui singeait Bossuet, raillait les goitreux et fustigeait dans le même panier de hargne des institutions françaises aussi sacrées et aussi respectables que l'Académie française, l'évêché de Meaux et la CGT. Enfin, mesdames et messieurs les jurés, je renaissais à la vie. Pour moi, l'arrivée sur les ondes de ce messie diabolique annonçait les temps nouveaux d'une radiophonie vraiment dégueulasse. Enfin, c'était le monde à l'envers. Enfin, on allait pouvoir prier dans les urinoirs et pisser dans les bénitiers. Amis Bigot et Dame Pipi, qui m'écoutaient, pour toute réclamation, vous écrivez à Louis Rego, Le Courrier des Imbéciles, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e.
Et n'oubliez pas le timbre.
Oui, oui, mesdames et messieurs les jurés, en vérité, je vous le dis, Jean-Yann a plus fait pour la promotion du mauvais goût en France que Jaruzelski pour la promotion de Solidarnosc en Pologne. Un jour, je l'ai entendu de mes propres yeux, il a osé expliquer à toute une francophonie pétrifiée d'horreur que l'auteur de La Flûte Enchantée ne s'était pas toujours appelé Wolfgang Amadeus. Étant enfant, il s'appelait en réalité Jean-Edern Mozart, comme tout le monde. Et c'est parce qu'il mettait de la boue sur les fauteuils salzbourgeois du salon de sa maman que cette dernière lui avait crié un jour « Fulcan ou Medeus Mozart ». Faut-il ? Faut-il, fallut-il que vous soyez tombé bien bas, Jean-Yann, pour avoir sali de la sorte la mémoire de l'auteur du Boléro de Ravel. De Köchel 312, pardon. De ce jour, mesdames et messieurs les jurés, ma décision fut prise. Écœuré par tant de bassesse, je me dis, Pierre, mon garçon, oui, quand je suis tout seul, je m'appelle mon garçon. Ben, si je m'appelle ma fille, ça m'excite, je peux pas bosser. Pierre, mon garçon, me dis-je, c'est juré, tu ne feras jamais de radio. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous hais tant, Jean-Yann. Quant à votre film, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, j'en suis sorti pantelant d'indignation. Comment avez-vous osé nous montrer Cléopâtre sans faire allusion à l'affaire Antoine? Est-ce que je monte chez Roux sans combat l'usier, moi? Nous devons respecter la vérité historique, mesdames et messieurs les jurés. C'est pourquoi, avant de céder la parole à l'avocat le plus bas d'Inter, qui saura finir d'accabler son client mieux que je n'ai su le faire, je terminerai en vous lisant un extrait d'un ouvrage historique qui m'a rendu célèbre dans ma famille et qui rétablit la vérité sur Antoine et Cléopâtre, en rendant à César ce qui appartient à Césigue. Alors, je vous lis cet extrait. Nombreux furent les héros qui répondaient au nom d'Antoine, sans parler d'Antoine Beethoven, qui ne répondait à aucun nom du fait de sa douloureuse surdité. Citons en vrac l'anachorète de la Thébaïde, qui résista, Antoine l'anachorète de la Thébaïde, qui résista à la tentation de la chair, à la tentation de la faim, à la tentation de la soif, à la tentation du jeu, à la tentation de se gratter, et qui est maintenant saint au paradis, où il résiste à la tentation de s'asseoir à la droite de Dieu, de peur que ce soit bon. C'est ce qu'on appelle la morale chrétienne. Également Antoine de Padoue, patron des perdeurs d'aiguilles dans les bottes de foin. Saint Antoine de Padoue, 10 heures trouvées. Antoine de Bourbon, père d'Henri IV, ou Antoine Amatla, inventeur du calembour dyslexique. Mais le bon Antoine, celui de Cléopâtre, fut Marcus Antonius, général romain, lieutenant de César, qui bâtit Brutus et Cassius à Philippe en 42, je ne vous le fais pas dire. Quant à Cléopâtre, ne confondons pas, au fil de l'histoire du monde, nombreuses furent également les héroïnes qui répondaient au nom de Cléopâtre, sans parler de Cléopâtre Denis, qui se faisait appeler la mère à des fins purement mercantiles. Mais la bonne... La bonne Cléopâtre, celle d'Antoine, fut Cléopâtre 7. Tu m'entends, Mimi Chérie ? Cléopâtre 7, 7e reine d'Égypte, 69-30 avant Jésus-Christ, dont la stupéfiante beauté laissait les hommes dans un état d'érection douloureuse incommensurable, qui, par comparaison, faisait paraître son nez tout petit, d'où l'expression. Au reste, il n'y avait pas que le nez. Tout en Cléopâtre éclatait de beauté. Ses yeux, au nombre de deux, presque aussi grands l'un que l'autre. Ses oreilles, délicatement tourlées, qu'elle nouait dans le cou les jours de Mistral. Et ses seins dont les pointes rosées se teintaient de violet quand elle marchait dessus. Par ailleurs, Cléopâtre avait un accent oriental sur l'oreiller et un accent circonflexe sur le A. Quand Antoine la vit pour la première fois, il sentit le Fa se dérober sous ses pas. Alors qu'à l'habitude, c'est le sol. C'est dire à quel point il était ému. Lui-même était fort bel homme et presque aussi érotique que Paul Newman dans Prends-moi sur l'Exodus. Observons deux papillons, lui dit-il. Il se jeta sur elle et ils s'aimèrent violemment jusqu'à la mort d'Antoine à la bataille d'Axiome. Mais vérifiez, parce que j'étais tellement bourré hier soir que je ne sais plus si j'ai trouvé l'Axiome dans le dico ou dans l'armoire à pharmacie. Désespérée par la mort brutale de son amant, Cléopâtre se suicida le jour même en se jetant sous le métro Pyramide. Et je crois que ça devait être l'armoire à pharmacie, finalement.
Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Régaud, nous vous écoutons.
Amis de la justice et des acteurs, bonjour. De quoi est-ce qu'on accuse tant, mon client ? Le président Villers vient de nous rappeler le chef d'accusation. Désinformation et propagation de fausses nouvelles. Parce que Jean-Yann donne une version inexacte de l'Antiquité. Je suis d'autant mieux placé pour défendre mon client que je connais l'Antiquité comme ma poche. Avant d'être avocat, j'étais l'imprésario du Christ. Le Christ, fils de Joseph et de Marie, vous a raconté des salades. Je peux vous en parler, moi je l'avais sous contrat. Il ne savait pas écrire, il signait d'une croix, j'ai des preuves. Et les apôtres, alors eux, ils savaient même pas faire des croix. Excusez la colère. Je suis le véritable auteur du Nouveau Testament. Si vous voulez, l'idée du testament m'est venue parce que les philosophies étaient trop démodées. Il n'y avait rien pour les jeunes. C'est pour ça que je l'ai appelé le Nouveau Testament. Le mot nouveau, ça accroche bien. Une affaire comme le bouddhisme chez nous, c'était pas pensable. Bouddha, il est gros, et les gros chez nous, ça fait rire, hein. Alors, l'idée de base était très simple, parce que vous savez comment il est, l'hébreu moyen. Il lui faut des slogans, des images qui frappent. Tu fais le bien, tu vas au paradis, tu fais le mal, tu vas en enfer. Ça, il comprend. Sans quoi, c'est des discussions interminables. Je connais les gens, hein. La preuve, ça a très bien marché. On a refusé du monde partout, en Palestine, en Égypte, en Jordanie. Ça marchait tellement bien qu'à un moment, j'ai pensé faire travailler plusieurs Christ un peu partout. Mais bon, purifier les lépreux, ressusciter les morts, ça demande trop de travail. Il fallait que je sois là. Et moi, je ne pouvais pas être partout. Hein. Parce que Jésus, dès qu'il était débordé, il pouvait faire n'importe quoi. Hein. Laver les pieds aux aveugles ou multiplier les lépreux. Faut dire qu'il n'était pas du métier. Hein. Il était cracheur de feu avant. Et ça, c'est vrai, il crachait les vraies flammes. Hein. C'est comme ça que je l'ai connu. Sur une place, il faisait son numéro. Il était maigre comme un martyr. Hein. Je me suis dit, c'est pile le personnage du Messie. Et je l'avais invité à boire un coup chez Zébédé. Fils d'Hippopotamus et de McDonald's. Je lui ai dit, en vérité, Jésus, combien tu gagnes par jour? Il m'a répondu, je suis prêt à tout, le feu, j'en ai ma claque, mais dans son calciné. C'est vrai, hein, c'est pour ça qu'il ne riait jamais. Je lui ai dit, je peux te faire gagner de l'or, fils. Il me dit, c'est pas malhonnête au moins. Je lui ai dit, non, mais dans le métier artistique, il faut faire des concessions, hein, si tu veux réussir. Est-ce que tu accepterais de faire des miracles? Il me dit, je ne sais pas si j'y arriverai. Je lui ai dit, t'inquiète pas, j'ai une bonne équipe technique qui connaissent bien le métier, mais il ne faut pas que tu aies peur de te salir les mains. Il y aura beaucoup de pieds à laver, beaucoup de plaies à sucer. Et on sera en contact permanent avec les estropiés. Hein. C'est déclaré qu'il me fait. Comme tu veux. Par contre, il faudra être là à l'heure aussi bien dans le désert qu'à la montagne. Les gens ici n'aiment pas attendre. Hein. C'est des nomades. Hein. Si tu arrives en retard, il n'y aura plus personne. Hein. Crois-moi, fils, avec un peu de talent et beaucoup de travail, tu soulèveras des montagnes. Hein. Des pas trop lourdes, j'ai un lumbago qui me dit. Ah, il prenait tout au pied de la lettre. Après, je l'avais raccompagné chez ses parents, sur mon âne, Martin. Fils d'Abraham et de Rebecca. Ah, très gentils, ses parents. On les a eu en tournée avec nous. Ah oui, très gentil, son père. Mais il buvait, hein. Et dès qu'il avait un coup dans le nez, il se mettait à traiter Jésus de tous les noms. Bon à rien, feignant, tu ferais mieux d'apprendre un vrai métier, tu vas pas faire des miracles jusqu'à 50 ans. Il râlait, son père. Mais dès qu'on avait un problème de menuiserie, alors là, champion, champion. C'est lui, d'ailleurs, qui avait construit la planche pour que Jésus marche sur les eaux. Si vous voulez, c'était le même principe que le surf, sauf qu'on voyait pas la planche. C'est tout. C'est moi qui avais trouvé la combine. Comme pour le pain. Parce que Jésus n'avait pas d'idée. Il n'avait pas d'idée. Il aurait multiplié les pains pendant 20 ans. Il a fallu que je me bagarre avec lui pour qu'on mette du poisson dans la multiplication des pains. C'est un môme qui m'avait donné l'idée. Il m'avait demandé, il n'y a rien pour manger avec le pain? Mais comme tous les artistes, Jésus tirait le burnois à lui, comme on dit chez nous. En fait, c'était parce qu'il était très complexé, il avait beaucoup de succès, mais il avait des problèmes. D'un côté, les femmes le trouvaient gentil, mais il n'inspirait pas à l'amour physique. Alors il était malheureux comme les pierres. Je ne peux rien dire sur sa vie sexuelle. Officiellement, il n'y a rien. Mais enfin, je crois savoir que des fois, il allait résister aux tentations. C'est pour ça que Marie-Madeleine a énormément profité de ses faiblesses avec les femmes. Hein, c'est elle qui lui a monté le bourrichon contre moi. J'ai su qu'elle lui disait, t'as besoin de personne pour faire des miracles, tu connais ton métier. Que soi-disant, moi, je l'exploitais. C'est pour ça qu'il avait attrapé la grosse tête. À partir de ce moment-là, il y a eu des mauvaises vibrations dans la troupe. Un jour, il avait carrément dit à un figuier, jamais plus tu ne porteras de fruits. Je sais pas ce que le figuier lui avait fait. Bref, je lui ai dit, tu t'en prends aux arbres maintenant parce qu'ils font pas ce que tu veux. Écoute-moi, Rabbi. J'aime pas qu'on m'appelle Rabbi, ça m'énerve. Le père qui lui dit, calme-toi, fils. Je suis pas ton fils, je suis le fils de Dieu. Qui lui répond, à son père, ça se fait pas, ça. Il écoutait plus personne, vous savez ce qui me sort un jour? Je refuse de faire le chemin de croix en couche-culotte, je veux pas qu'on voit mes jambes. Je lui dis, mais c'est pour cacher ton harnais de sécurité. Au cas où t'aurais une crampe dans les doigts. Faut tenir 3 jours, ça la foutrait mal que tu tombes. Faut trouver une autre idée qui me sort. Je sais pas, moi, je vais m'arroser d'alcool. Ils me foutent le feu. Mais non, c'est dangereux, il y aura des enfants. Le père qui s'en mêle et qui dit, il a qu'à courir à toute allure, la tête baissée et s'écraser contre un mur. Mais c'est ridicule, c'est une mort d'insecte, ça, monsieur Christ. Si tout le monde s'en mêle, on n'a pas fini. C'est un métier précis, hein. Pensez aux techniciens, ils peuvent pas faire des miracles, putain. C'était la veille de l'opération Golgotha. Judas, fils de Timothée, et de la putain de sa mère. Nous avait invité à manger un couscous chez lui. Venez, ça fera très plaisir à ma femme. Bon, moi, j'avais pas tellement envie d'y aller, mais les apôtres, ils demandaient que ça. J'avais dit à Jésus, fils, pourquoi tu t'entoures de parasites comme ça? Ils pensent plus qu'à boire et à manger. C'est feignant. C'est tous les jours les noces de Cana avec eux. Le lendemain, ça n'a pas loupé. Hein. Plusieurs entrées, couscous royal, deux brochettes, très très bien servies. Vin et pétard à volonté. Bref, à un moment donné, ces enfoirés d'apôtres qui se battaient à coups de pois chiches pour se marrer. Et puis Jésus, aucune classe, il hurlait, je sais qu'il y a un traître parmi nous, je sais qu'il y a un traître parmi nous. Moi, obligé de lui dire, allez, finis ta semoule, ça va t'éponger, va. Je m'en fous, je vais lui casser une merguez sur la tête. Je vous raconte pas la scène. Lamentable, lamentable. C'est pour ça que le lendemain, ça a été l'enfer. Il aurait été agent, il aurait pu se sauver. Mais pendant le chemin de croix, il avait fait des mélanges. C'est pour ça qu'il tombait tout le temps. Je vais vous dire vraiment, monsieur Villers. Il s'est crucifié tout seul tellement il était planté. Ami de la cour, à demain si tout va bien.
Merci, maître Régaud. La cour, après en avoir délibéré, après avoir écouté le jury, constatant que 3 des 5 jurés se prononcent pour la culpabilité de Jean-Yann, le condamne aux travaux forcés, c'est-à-dire à l'exécution capitale, en fait, d'une chanson.
Oui, oui.
Puisque vous aimez tant chanter et que...
Avec plaisir.
Voilà. Jean-Yann.
Choucroute, saucisse, choucroute, saucisse, c'est probablement la seule chose pour laquelle j'aurais dû être vraiment condamné.
Jean-Yann, vous êtes libre. Merci, l'audience est levée.
Choucroute, saucisse.
Les jugés qui condamnent, les messieurs comme les dames, avec tout pas dit de sang, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous passiez à table. Pas question d'aujourd'hui, pas moyen de s'en sortir. Il y a vraiment rien de pire. Les flagrants délits.
C'était le NRV France Inter plus de Tribunal des flagrants délires. 3e épisode ce soir, c'était Jean-Yann. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, c'est l'auteur de bande dessinée Claire Bretéché qui va se présenter à la barre. Je vous souhaite le bonsoir.